RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Le Tour de France qui fait escale ce soir à Bagnères-de-Bigorre, une escale très courte puisque les coureurs sont déjà en train de repartir, de prendre l'avion direction Saint-Nazaire pour la journée de repos qui aura lieu demain donc en Loire-Atlantique avant de reprendre la route. Nous allons dresser le bilan de cette première semaine de Tour de France et de ses premières étapes de montagne dans quelques instants avec Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Mais avant cela, c'est l'heure du Journal des Sports.
RMC Sport.
Journal des Sports, deuxième édition avec Benoît Boutron. Benoît, j'imagine qu'on va repartir pour Wimbledon avec le triomphe d'un certain Andy Murray.
C'est fini ! Andy Murray remporte Wimbledon, il enlève sa casquette, il exulte. Andy Murray est allé au bout de ce rêve et ce jeu, Virginie, il s'en souviendra toute sa vie.
Eh oui, tu t'en doutais, Christophe. 77 ans que la Grande-Bretagne attendait un successeur à Fred Perry. Andy Murray, l'Écossais, deuxième joueur mondial à remporter le tournoi de Wimbledon en battant le numéro 1, Novak Djokovic. En finale, le score 6-4, 7-5, 6-4. C'est le deuxième tournoi du Grand Chelem remporté par Murray après l'US Open. L'an dernier, chez les dames, vous le savez, c'est Mario Bartoli qui l'a emporté hier, la Française, qui a pu savourer son titre décroché hier contre Sabine Lisicki. Enfin, pas tout à fait, Bartoli qui vient donc de remporter le premier Grand Chelem de sa carrière et qui n'a même pas eu le temps de souffler.
Voilà, j'ai pas eu une minute à moi. Enfin, franchement, ça a été extrêmement intense après le match. En fait, tout le marathon médiatique depuis hier, les journalistes, les photos, les félicitations, les autographes. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps de me poser et de souffler tranquillement et d'apprécier encore ce titre. Mais je commence à un peu plus réaliser qu'effectivement, je viens de gagner Wimbledon et ça me redonne le sourire.
Mario Bartoli avec Nicolas Paolorsi au Tour de France, 9e étape entre Saint-Giron et Bagnères-de-Bigorre, remportée par l'Irlandais Dan Martin, le coureur Garmin qui a devancé son coéquipier d'échappée Jakob Fuglsang. Dan Martin qui était forcément ravi à l'arrivée, il voulait faire le spectacle aujourd'hui sur la grande boucle.
Non, c'est pas vraiment un rêve, c'est une réalité maintenant, mais bon, c'est... aujourd'hui on a décidé qu'on voulait faire le spectacle un peu, le Garmin Sharp, on voulait détruire la course, et peut-être on n'est pas bien aimé ce soir avec toutes les autres équipes, mais on a fait ce qu'on voulait, et enfin on a gagné l'étape aussi, alors c'est une super journée pour l'équipe. C'était une étape très dure, et moi aussi j'ai souffert hier, mais aujourd'hui j'ai chanté très bien, et enfin ouais, on a gagné, alors c'est super.
Dan Martin, le vainqueur d'étape sur la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves Leroux qui est avec nous. Il est à l'aéroport de Tarbes en salle d'embarquement. Salut Pile, les coureurs qui vont bientôt s'envoler.
Exactement, il y a deux avions en fait, donc les premiers sont en train de rentrer dans leur avion, c'est l'équipe Sky notamment, et puis le deuxième avion emmènera tout à l'heure les autres équipes qui d'ailleurs commencent à embarquer, et notamment Dan Martin qui passe juste à côté de nous en direction de Nantes. Le premier avion va aller en direction de Saint-Nazaire où va se dérouler la journée de repos. On sent un peloton et des équipes très fatiguées par déjà près de 8 jours, plus de 8 jours de course et beaucoup de soleil, de la fatigue, et la journée de repos va faire beaucoup de bien demain.
Merci Pierre-Yves et bon voyage. On va filer tout de suite à Vichy, nous, pour le 400 mètres nage libre de Camille Muffat. Julien, c'est la fin de la course.
Avec peut-être une grosse sensation, messieurs, puisqu'il reste 50 mètres à parcourir et Camille Muffat est accrochée dans sa spécialité, championne olympique de la distance, on vous le rappelle, par la néo-zélandaise Lauren Boyle, ligne de numéro 4. Elles sont vraiment au coude à coude. Il reste 25 mètres à parcourir. Camille Muffat qui se bat pour ne pas se faire battre sur sa distance de prédilection. Elle devrait l'emporter. Il reste 5 mètres à parcourir, c'est très serré. Camille Muffat, le dernier effort dans ses derniers mètres. Camille Muffat qui va toucher en première position, mais c'était très 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 serré. 4 minutes 4 secondes 9 centièmes pour Camille Muffat, 4 minutes 4 secondes 24 centièmes pour Lauren Boyle qui a failli créer la sensation en faisant tomber la championne olympique de la distance. Et d'ailleurs Camille Muffat s'empresse d'aller féliciter la néo-zélandaise. Elle s'impose tout de même à 3 semaines des championnats du monde. C'est toujours elle la patronne, Camille Muffat, de ce 400 mètres nage libre.
Elle a eu chaud, Camille Muffat. Et justement, Julien, tu vas rester avec nous puisque la course phare de ce meeting, évidemment, c'est le 50 mètres nage libre. Messieurs, on attend les stars mondiales avec notamment James Magnussen. Julien, c'est le grand favori. Est-ce qu'il a une longueur d'avance sur cette course ?
Alors c'est vrai que ce sera une course de rêve hein, puisqu'avec Florent Manodou, César Cielo, Fred Bousquet et James Magnussen, on a dans cette finale 4 des 5 meilleurs performeurs de l'histoire hors combinaison. Alors s'il sera difficile de tirer les enseignements véritablement de cette course parce que les nageurs ne sont pas au même niveau de préparation hein, tous à 3 semaines des championnats du monde, Fred Bousquet par exemple, le deuxième performeur de l'histoire, est un peu en retrait ce week-end. Le champion olympique Florent Manodou ne cache pas qu'il veut s'imposer.
c'est important de gagner le 50. Après, c'est pas l'objectif final, mais c'est important de faire une bonne course ici, ouais, pour montrer qu'on est là.
Marquer les esprits face à James Magnussen, la terreur australienne du 100 mètres, qui a écœuré tout le monde hier et qui se lance lui aussi sur ce 50 avec beaucoup de décontraction. Il y a moins d'une heure, on l'a vu en train de danser en rythme avec la mascotte de l'Open, une grenouille géante. Ça valait le coup d'œil. Marquer les esprits face à César Cielo, qui l'a battu à Londres et qui était le champion olympique sortant, qui est le champion du monde en titre. Cielo, hier, a remporté l'acte 1 face à Manodou, le 50 mètres papillon. La revanche s'annonce bouillante ce soir.
Bon, bonne chance pour him.
Voilà, bonne chance pour lui.
Et bonne chance pour lui. Et rendez-vous 19h26, évidemment, pour cette course. Julien, on sera là, on sera avec toi pour vivre donc ce 50 mètres nage libre.
RMC, les experts F1.
Et il n'y a pas qu'Andy Murray qui s'est imposé à domicile aujourd'hui. Sébastien Vettel a été le plus rapide devant son public au Grand Prix d'Allemagne, le champion du monde en titre, qui devance Kimi Raikkonen et Romain Grosjean, le deuxième podium de la saison pour le Français. Après une troisième place à Bahreïn, Romain Grosjean, membre de la Dream Team RMC, qui retrouve un petit peu le sourire après quatre Grands Prix sans marquer le moindre point.
J'y ai cru, clairement. Premier relais se passait super bien. La Red Bull usait plus les pneus que nous sur le deuxième relais juste avant le safety car, c'était pas mal. Sébastien commençait à avoir des petits soucis. Ensuite, trouver l'ouverture, c'est quasiment impossible ici. Et dans l'équipe, on pouvait pas mettre les deux dans le même panier, donc il fallait tenter un avec des pneus tendres, l'autre avec des pneus médiums. Bon, il s'est avéré que les pneus tendres ont été plus rapides. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment du bien de revenir sur le podium. On a fait un week-end propre, fort. C'est le genre de choses qu'on veut pour construire une saison solide.
Romain Grosjean avec Antoine Arlot, et pendant ce temps-là, Edinson Cavani se rapproche de Paris.
RMC, le Mercato Show.
64 millions d'euros, c'est le montant de l'accord qui devrait se conclure entre Naples et le Paris Saint-Germain. El Matador devrait s'engager pour 5 ans avec un salaire annuel de net de 10 millions d'euros. L'officialisation qui devrait intervenir mardi ou mercredi. D'ailleurs, Goran Pandev, coéquipier de Cavani au Napoli, l'a déjà félicité sur Twitter pour cette signature au Paris Saint-Germain. Et puis Toulalant, lui, a choisi Monaco, pisté par Rennes et l'Atlético Madrid. L'ancien Lyonnais a préféré s'engager avec la SM pour 2 ans. Il sera présenté lundi avec Ricardo Carvalho et Nicolas Isimat Mirin. Et puis un mot de golf, l'Open de France qui s'est achevé cet après-midi sur le parcours de Guyancourt. La bataille à distance entre le Nord-Irlandais Graham McDowell et le Sud-Africain Richard Stern a été remportée par G-Max. C'est le 3e succès du 9e joueur mondial cette saison. Victor Dubuisson, le premier français, finit 18e. Allez, on retourne sur la route du Tour. Avant de plier bagage, on retrouve Christophe Cessieux et toute la Dream Team Vélo, évidemment.
Et ils sont là, évidemment, ils ont mis les valises dans le coffre, prêts à s'embarquer pour Saint-Nazaire. Une longue route nous attend ce soir, Benoît, pour rallier donc Saint-Nazaire. La journée de repos demain, journée de repos pour les coureurs, mais pas vraiment pour les suiveurs. Nous serons à l'antenne dès 17h demain après-midi, d'ailleurs, pour revenir sur cette journée de repos. En attendant, nous sommes là, toujours dans notre petit camion, bien installé à Bagnères-de-Bigorre au terme de cette 9e étape du Tour de France, qui a donc conduit les coureurs de Saint-Girons jusqu'à Bagnères avec 5 cols de première catégorie et une bagarre qui a débuté dès le début de l'après-midi. On s'est régalé aujourd'hui sur les routes du Tour.
Dan Martin qui prend le dernier virage à gauche en tête et qui lance ce sprint de loin. 200 mètres à parcourir encore. Dan Martin, l'Irlandais de l'équipe Garmin-Sharp, qui s'impose ici à Bagnères-de-Bigorre. Extraordinaire victoire de Dan Martin qui devance Jakob Fuglsang. Derrière, le groupe maillot jaune est emmené par Joaquin Rodriguez, le grimpeur espagnol. Christopher Froome est arrivé bien au chaud dans ce groupe des favoris, mais aussi Alberto Contador, Alejandro Valverde ou Jean-Christophe Perrault. Le Hollandais Mollema est également là, mais surtout Christopher Froome qui l'a échappé belle. Bravo la gestion du leader du classement général, le Britannique de l'équipe Sky, qui a montré que même sans équipier aujourd'hui, il pouvait tenir la baraque.
Voilà, il a montré qu'il pouvait tenir la baraque seul contre tout, seul, abandonné dans la montagne. Chris Froome étincelant une nouvelle fois aujourd'hui. Il a confirmé qu'il était bien le grand bonhomme de ce Tour de France. On va revenir évidemment sur cette étape avec Cyril Guimard, que je salue. Bonsoir Monsieur le Druide.
Bonsoir, bonsoir.
Avec Monsieur Lucho Leblanc qui salut, est là en pleine forme. Et avec Thierry Bourguignon qui nous rejoint également. Salut Thierry.
Bonsoir.
Alors messieurs, on a assisté à une étape, dans un premier temps, étape de folie pourrait-on dire, car c'est parti très tôt avec des attaques incessantes. descente et Chris Froome harcelé de toutes parts par plusieurs de ses adversaires. Chris Froome et son équipe, Cyril, puisque dès l'ascension du premier col, le col de Portet d'Aspé, eh bien, Chris Froome, le leader, s'est retrouvé seul, abandonné dans la montagne. Il y avait quelques ours un peu plus loin, mais
il y avait des loups. Il y avait des loups aussi.
Il y avait des loups.
Qu'est-ce qu'il a dû avoir peur?
Contador. Je ne sais pas s'il a eu vraiment peur. Si, peut-être, quand même, pendant un moment, il s'est peut-être inquiété de la suite de l'étape.
Ouais, on l'a rassuré très tôt.
Voilà.
Les Movistar. Ils ont été gentils avec lui.
Alors, derrière, évidemment, les Movistar ont réussi à lâcher Richie Porte, deuxième au classement général. Ça, c'était ce matin. Et puis, on espérait évidemment que dans les trois cols qui allaient suivre, la bagarre allait se reproduire. Malheureusement, de bagarre, il n'y en eut point, Cyril. Pourquoi pas de bagarre aujourd'hui?
Alors,
la deuxième partie, en tout cas. Hein.
Quand on pose la question aux intéressés, on a des réponses qui sont quand même un petit peu langue de bois. Alors, c'est vrai qu'on a eu un départ très rapide, mais ça, maintenant, on est habitué. Tout le monde voulait prendre la bonne échappée qui avait une chance d'arriver, d'aller au bout. Donc, ça a attaqué. Et puis, il y avait les Garmin qui avaient décidé qui n'avaient plus de leader pour le classement général ou qui étaient un petit peu loin, avaient décidé de lancer la bagarre. Et c'est David Millard, un des premiers qui a lancé. D'ailleurs, il partait deux par deux. Là, le problème, c'est que c'était pas des attaques contre Froome. Sauf que ses équipiers ont été obligés de se mettre à la barre tout de suite, et vraisemblablement de façon trop importante. Ils ont peut-être fait d'ailleurs une erreur, car ils auraient peut-être dû laisser partir les Millard, les Geschke, Pierre Roland.
Des garçons qui n'étaient pas très dangereux au classement général.
Et ils ont fait un tempo trop rapide. Et quand on est arrivé sur le Portet d'Aspé, eh bien, ça a commencé à être un peu difficile. Il a perdu plusieurs équipiers. Il y a eu la descente, mais on a attaqué le col de Monte. Et le col de Monte, je le connais par cœur, comme le Portet d'Aspé d'ailleurs. C'est un col qui est difficile, il est court par ce côté-là, mais difficile. Et là, il y a eu un petit grain de sable. Kenhoff est tombé. Il est tombé, et donc il restait plus d'ailleurs que Richie Porte et Kenhoff. Donc là, il fallait laisser un petit peu du mou. Il y avait des coureurs, une quinzaine de coureurs qui étaient partis. Et là, Richie Porte s'est mis à la barre, mais trop vite. Donc il a sauté, il a explosé. Et ayant explosé, Froome s'est retrouvé tout seul. Et ensuite, alors là, il a vraisemblablement eu peur. Sauf que très rapidement on l'a rassuré, puisque le plus dangereux, vous savez, dans une étape de montagne, c'est pas pour un leader, c'est pas obligatoirement la montée, pas obligatoirement la descente, c'est la distance qu'il y a entre le pied d'une descente, enfin, le bas d'une descente et le pied du col suivant. Et quand vous avez 30 km, c'est là où les choses se passent. Et moi, je me souviens, pour avoir fait gagner Lucien Vanni sur ces passages de 30 km dans les Pyrénées d'ailleurs, eh bien là il était en danger. Mais il a bien joué. Il s'est dit, le mieux placé au général, c'est le deuxième. Je me mets dans la roue du deuxième. De toute façon, le deuxième ira chercher le troisième.
Et voilà. Et on est reparti sur le même scénario que les dernières années.
Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Après, on attaque la montagne. On va attaquer la montagne. Et là, les Movistar veulent aller chercher la deuxième place.
Donc Quintana, Valverde et compagnie.
Ils ne s'occupent plus de Froome. Ils n'attaquent pas. Il y a eu deux, trois petits. Pétards mouillés dans le dernier col à 2 km du sommet de Quintana. Non, vraiment, entre nous, si on veut gagner le Tour de France, c'est pas comme ça
qu'ils veulent.
Mais si on veut le perdre, on court comme ça.
Alors, Lucho, les adversaires de Froome ont-ils laissé passer leur chance aujourd'hui? On sait que malheureusement, pour les adversaires, il n'y a pas 100 000 occasions sur une épreuve de 3 semaines. Hein. Même si on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de jours de course. Mais là, malheureusement, pour eux, il n'y en aura pas des masses.
C'est vrai qu'il y a encore les Alpes. Il y a le Mont Ventoux et puis il y a l'Alpe d'Huez à monter deux fois. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce qu'il fallait prendre aujourd'hui, il fallait le prendre. Quoi. Je veux dire, ils auraient dû, les Movistar, depuis le col de Mantes, ou là où ça a commencé à s'effondrer complètement pour l'équipe de la Sky, de pouvoir faire le maximum pour faire sauter Froome. Malheureusement,
mais messieurs, on va s'interrompre quelques instants parce qu'il se passe des choses à Vichy, l'Open de France de natation, avec une finale incroyable. Julien Richard,
c'est une finale de rêve, on peut le dire, cette finale du 50 mètres nage libre, messieurs, avec ce qui se fait du mieux vraiment au monde, hein, dans ce sprint mondial. On a là le champion olympique en titre, vous le connaissez, il est français, il a un nom très connu, il s'appelle Manon Anodou, Florent de son prénom, champion olympique à Londres du 50 mètres nage libre. On retrouvera Fred Bousquet qui n'était pas qualifié au jeu mais qui s'est qualifié sur les mondiaux, pour les mondiaux sur cette distance. Et puis on retrouve également César Cielo, champion du monde en titre, recordman du monde de la distance. Il était champion olympique sortant à Londres, il s'est fait battre par Florent Manodou. Il y a des petites envies de revanche, hein, évidemment, vous vous en doutez. Et puis il y a le phénomène, l'Australien James Magnussen, l'Indo numéro 4. Il a réalisé le meilleur chrono hier, il a impressionné sur la distance reine, sur le 100 mètres, vainqueur mais très 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 facile, avec 3 secondes d'avance sur les Français, donc ça fait un peu mal à la tête. James Magnussen qui se lance avec succès sur ce 50 mètres très détendu, hein, l'Australien, on l'a vu tout à l'heure là, il y a moins d'une heure, il était en train de danser avec la magnifique mascotte de cet Open de France, une grosse grenouille avec un habit Vichy d'occasion, évidemment, puisqu'on est à Vichy pour cet Open de France. Allez, le silence va se faire pour cette finale des hommes forts de la natation, du sprint mondial. Il y a ce qui se fait de mieux, les 4 des 5 meilleurs performeurs de l'histoire hors combinaison sur cette distance, avec le très 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 gros départ de Florent Manodou là, qui a pris un avantage sur ses adversaires à la sortie de la coulée. Mais James Magnussen fait son retard lui aussi. Florent Manodou pour l'instant est en tête, ça, c'est vraiment très serré pour l'instant. Il y a également un très gros départ de Jérémy Stravu qui s'est glissé dans cette finale, mais Florent Manodou va s'imposer. Victoire de Florent Manodou en 21 secondes 64 centièmes, deuxième place pour César Cielo 21 78, et troisième place pour James Magnussen 21 secondes 86 centièmes. Il a de la gueule, hein, excusez-moi l'expression, ce podium. Manodou, Cielo, Magnussen, espérons que dans 3 semaines ce soit à peu près la même chose, avec un Fred Bousquet qui réussisse peut-être à se glisser un peu plus près du podium, lui qui termine 4e de cette course en 22 secondes et 30 centièmes.
On a quelques jours de ces grands championnats. Merci Julien. À plus tard donc pour d'autres compétitions, à l'Open de France de natation qui se déroule à Vichy, une ville d'eau s'il en est. Messieurs, nous sommes de retour sur le Tour avec Cyril Guimard, avec Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. Donc on le disait, occasion ratée pour les adversaires de Chris Froome. Thierry, mais vraiment, est-ce qu'ils auraient pu faire sauter Chris Froome aujourd'hui? On l'a vu encore une fois, très costaud, non?
Oui, non, mais très costaud, ça on le sait. Mais en courant comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas l'inquiéter. Parce que si on fait le rôle d'Escaï, en fait, Movistar s'est mis à la barre pour aller chercher tout le monde et préserver sa deuxième place. On l'a vu tout de suite, en fait, on a vu tout de suite que ce qui intéressait les Movistar, c'était la deuxième place. Ce n'était pas faire sauter le maillot jaune. Ils ont fait un semblant, comme dit Cyril, dans les derniers kilomètres.
C'est-à-dire qu'ils se battent déjà pour la deuxième place sur les Champs-Elysées?
Ah, c'est ce qu'ils ont montré, hein, en tous les cas. Hein. Et c'est vrai que c'était l'étape pour mettre en difficulté Froome. Parce que, franchement, à part la montée de l'Alpe d'Huez deux fois, je ne vois pas où ils peuvent le faire sauter. En courant comme ça, en plus, c'est impossible. Parce que même le Ventoux, c'est une montée sèche, c'est une course de côte. Et une course de côte, et Froome sera là.
On l'a vu hier, la course de côte.
Hein, oui, il sera là. Alors que moi, je pensais, il y a un moment, quand je l'ai vu en difficulté, du moins esselé, au milieu de tous ces Espagnols, je me suis dit, ils vont lui faire la fête, comme ils ont fait en Espagne.
Ça veut dire quoi? Ils ont couru comme des patates, en gros.
Mais bien sûr.
Il n'y avait aucune stratégie.
Quand il y avait un Espagnol de Movistar devant, c'était les cow-boys de la Saxo qui y roulaient, et vice-versa. Donc, ils allaient chercher mutuellement, et puis l'autre, il était derrière, il tricotait.
C'était l'occasion jamais de faire basculer le Tour aujourd'hui.
Ah oui, oui, c'est la seule occasion qu'ils auront. Moi, alors, je suis persuadé que c'est la seule.
Cyril, tout à l'heure, a eu une réflexion intéressante. On s'est posé la question de savoir hier soir si le Tour était joué. Cyril nous disait, bon, on sait pas, on verra. Mais là, ce soir, tu peux nous le dire. Tu peux nous le dire, en tous les cas, tu nous l'as dit dans le direct. Donc tu vas répéter ce que tu as dit tout à l'heure dans le direct.
Je suis obligé, sinon je vais en plus.
Il est joué.
le Tour, il s'est gagné aujourd'hui.
Oui, exactement.
Il s'est gagné aujourd'hui devant l'incapacité tactique
d'une formation pourtant
qui sont en surnombre par rapport à un homme qui est seul. Et ils ont eu une attitude de gens battus. Quand on sait que dans 3 jours, puisqu'il y a étape de repos demain, donc après vous avez Saint-Gildas, Saint-Malo, et après vous avez un contre-la-montre.
Contre-la-montre, tout
part. Attendez, il va leur mettre 2 gifles.
Trois même.
Ensuite, on va aller tranquillement, là-bas sur le Mont Ventoux. On arrive, montée sèche. Attends, là, il va leur mettre deux gifles et une fossée.
La même chose que hier.
Et deux jours après, on a un contre-la-montre.
Le coup de pied aux fesses pour terminer.
Et là, ça sera, il n'aura plus qu'à mettre le coup de pied aux fesses en disant allez, allez, allez jouer dans votre cour.
Oh là là, mais vous me désolez.
Non, mais c'était la seule journée.
Toutes mes
Christophe,
illusions.
C'est pas nous qui sommes responsables de la stratégie des coureurs.
Mais non, t'as qu'à reprendre une équipe, Cyril. T'as qu'à reprendre une équipe, fais les courir.
Donnez-moi 15 millions et je le fais.
On va écouter Chris Froome. On va écouter Chris Froome tout de suite, justement. A-t-il tremblé aujourd'hui, a-t-il vécu une journée difficile, le leader du Tour de France, on l'écoute.
Je connaissais mon job, je devais suivre mes rivaux et donner tout ce que je pouvais. C'était une journée très dure, une des plus difficiles que j'ai passées sur un vélo, mais j'ai pu contrôler l'étape de bout en bout.
Voilà, j'ai pu contrôler l'étape de bout en bout, évidemment.
Il n'a pas eu mal.
Il a l'air très inquiet.
Les Movistar ont contrôlé pour lui.
Eusebio, vous le connaissez, oui. Eusebio Nzoué, oui. Qui est le manager de la formation Movistar. Il nous explique justement ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui et nous explique pourquoi ils n'ont pas pu attaquer et mettre à mal Chris Froome. Eusebio Nzoué.
Movistar et aussi también Garmin, non, qui sont lancés tout de suite après le départ. Ils sont attaqués. L'idée, c'est un peu d'isoler un Froome. Cette chose, nous avons conseguí dans le deuxième col, pourquoi il était tout seul. Mais après, un peu les circonstances des courses, nous avons été oubliés à travailler pour que l'Australien porte, pas retourner de nouveau au peloton. Et c'est pour cette chose que nous avons travaillé un peu pendant toute la journée, non? Et comme ça, éviter un peu la possibilité stratégique de Sky de jouer avec des coureurs.
Non mais il le dit ouvertement là.
C'est la place de Porsche générale.
Il joue déjà dans la deuxième.
Alors moi je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez que le maître de Monsieur Nzoué doit se retourner là-bas chez lui devant sa télévision.
Miguel
Etchevarri. Et puis quelqu'un que vous connaissez bien qui regarde aussi tous les jours la télévision.
Etchevarri qui était le leader de on le rappelle, de Miguel Indurain.
Qui était Pedro Delgado. Et Francis Lafargue, ils ont dit mais attends, c'est pas possible. Attends, on court pas comme ça. On court pas pour éliminer Porte. On essaye de courir pour gagner le Tour de France. Ça veut dire quoi? On essaye d'éliminer Porte, qui se serait de toute façon éliminé de lui-même. Alors je vois pas. Bon, alors aurait peut-être mieux valu retirer des oreillettes et que les coureurs courent.
Non, mais
en
Cyril,
fonction de leur instinct. Mais...
Cyril, non. C'est pas la première année qu'on voit ça. US Postal a couru tout le temps comme ça. Quand il était isolé, il y avait
que
toujours.
US Postal n'avait pas de défaillance. Il y en avait beaucoup qui connaissaient des défaillances dans l'école.
Il y a eu des journées dures pour Armstrong et Armstrong s'est joué de ses adversaires comme il avait
la T-Mobile qui des fois roulait pour lui.
Exactement la même chose. Ouais. Aujourd'hui, les points sont tellement comptabilisés par les équipes que, on joue la deuxième plutôt que la troisième.
Et c'est là où Valverde va sauter après dans les prochains jours et notamment dans les Alpes.
Valverde, il va sauter, il avance contre la montre.
Ouais. Bon.
En plus, Quintana m'a déçu aujourd'hui.
Je vais rentrer à Paris tout de suite. Moi, je ne m'arrête pas à Saint-Nazaire. Non, mais c'est terminé.
Non, mais on est là. On va faire des pique-niques.
Moi, je vais rentrer à Nantes. On va faire des pique-niques.
Je vais rentrer à Guerre chez moi là-bas.
C'est sauf hier, on trouvait que le tour était mort. Bon, on était peut-être
très pessimistes. Non, mais on a vu une belle étape quand même aujourd'hui.
Une belle étape, mais c'est vrai que pour renverser le maillot jaune de Froome, c'était aujourd'hui ou jamais.
Enfin, quand même, l'équipe du jour, c'était la Garmin.
Oui. Là, eux, ils ont bien joué. Parce qu'ils ont foutu le boxon et ils sont allés gagner.
Messieurs, on va s'interrompre quelques instants. Vous êtes chaud ce soir.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Toujours à Bagnères de Bigorre au terme de la 9e étape du Tour de France, remportée donc par Daniel Martin, l'Irlandais de la formation Garmin. Le maillot jaune, vous le savez, reste sur les épaules de Chris Froome, qui possède désormais 1 minute 25 d'avance sur son nouveau dauphin. Ce n'est plus son coéquipier Richie Porte, c'est l'Espagnol Valverde, donc avec un retard d'1 minute 25. Les autres leaders sont un peu plus loin. Contador 6e à 1:51, Quintana 7e à 2:02. Et il faut descendre encore un peu plus loin pour trouver Andy Schleck 15e à 4 minutes. Les leaders qui sont donc largué, il faut bien le dire, par Chris Froome. Mais il n'y a pas que, car les Français, eux aussi, sont un peu à la ramasse en ce début de Tour de France. Aucune victoire d'étape après 9 étapes. Et puis au classement général, le premier d'entre eux, eh bien, c'est Jean-Christophe Perrault qui pointe ce soir à la 18e place avec un retard, 14e place exactement, avec un retard de 3 minutes 29. Ça fait loin, mais c'est quand même pas trop mal pour Jean-Christophe Perrault. Romain Bardet, deuxième français, et 20e avec un retard de 7 minutes 09. Pierre Roland, 26e à 12:34. Maxime Médérel,
à Limousin.
Ça va faire plaisir à
Lucho. C'est son premier tour.
36e à 20 minutes 57. Et puis derrière, la grosse déception de ce début de Tour de France, c'est évidemment Thibaut Pinot, 47e au général, à 31 minutes. Celui qui était annoncé comme la petite merveille du cyclisme français, qui est passé complètement à côté des Pyrénées. Hier, c'est dans la descente qu'il a été mis à mal. Aujourd'hui, c'est dans la montée. Il n'y est plus, ni dans la tête, ni dans les jambes. La tête va mal, malheureusement, pour Thibaut. On va écouter tout de suite Thierry Bricot, qui est le directeur sportif de la FDJ.fr, nous raconter dans quel état se trouve ce soir Thibaut Pinot. Il n'est pas au mieux.
Le départ qu'il est aujourd'hui, si c'est qu'il est marqué, ça l'a marqué. Ce qu'il a marqué, c'est d'avoir pris ces 6 minutes sur la première étape, alors que c'était son terrain de jeu. Et puis c'est tout ce qu'il a entendu, lui derrière, qui l'ont blessé. Mais ça va, voilà. Maintenant, il sait à qui il a affaire, il sait qu'il est attendu. Il y a un an, c'était un petit prince, et aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié. Mais ouais, c'est pas grave, il va se reconstruire, ça va l'aider à progresser. Il y a des belles étapes à les gagner. S'il gagne en Ventoux, ou d'Alpe d'Huez, ou une étape dans cet esprit-là, il a vite oublié ce qui s'est passé la première semaine. Mais voilà, non, il reste des belles étapes à aller chercher, donc ce qui va se concentrer. Sur la suite.
C'est vrai que la roue tourne vite, hein, sur la route du Tour. Thibaut Pinot, le petit prince de l'an dernier, vainqueur d'étape, qui avait terminé dans les 10 premiers. On l'a annoncé comme peut-être un futur vainqueur du Tour de France aujourd'hui la situation est un peu compliquée pour Thibaut, qui a pris un gros coup sur la tête hier avec cette descente où il a été à la rue derrière. Il n'a pas réussi à se refaire. Aujourd'hui, il termine avec un retard de 26 minutes. C'est dur pour Thibaut, Cyril, un garçon qu'on aime beaucoup. Mais aujourd'hui, il a montré ses limites, en tous les cas, hier plus exactement. Et quand on prend un tel gadin, on a du mal à s'en remettre. Il est touché, surtout psychologiquement, dans la
voiture. Enfin, un gadin psychologique. Parce qu'il n'est pas tombé. Oui, non, c'est difficile parce que c'est vrai que suite à son Tour de France de l'an dernier, comme on n'a pas d'autres champions un petit peu capables de gagner le Tour de France, on s'est rabattu, et c'est tout à fait logique, sur les jeunes Français. On a Bardet aujourd'hui qui arrive. On avait donc Thibaut Pinot concernant le classement général. Et puis là, et c'est pas la faute des journalistes, c'est pas la faute des consultants, c'est pas la faute
de l'encadrement non plus. Qui a essayé de le protéger.
Littéralement bloqué dans les descentes. Bon, c'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Alors que vous disiez tout de suite que la roue tourne vite, j'aurais plutôt tendance à dire sa roue ne tourne pas assez vite dans les descentes. Mm-hmm. Mais ça n'est pas son potentiel physique qui est mis en cause, sont pas ses qualités humaines qui sont mises en cause. J'ai presque envie de dire son mental n'est pas mis en cause. Il a un blocage psychologique dans les descentes et il a surtout un blocage avec la vitesse. C'est-à-dire que dès qu'il atteint 60 à l'heure, s'il va rentrer dans une courbe à 60 à l'heure, il met sur les freins.
Alors il faut expliquer que, pour expliquer justement cette angoisse de la descente, il a connu une chute très grave.
On peut parler d'angoisse.
Lorsqu'il était jeune, il s'est cassé les deux bras et c'est quelque chose qui l'a marqué profondément. Ça arrive, Lucho, on peut être marqué par une chute, par un souvenir d'enfance douloureux, et ouais. Lui en l'occurrence c'est ça. Hein.
Oui, mais il faut savoir surpasser cette peur et se dire que là il fait...
On peut travailler sur la peur
fait,
et...
Il faut le travailler à l'entraînement. Moi je me souviens avec Cyril, on travaillait les descentes à l'entraînement, on ne faisait pas que des fractionnés en côte, hein. On travaillait aussi les descentes et je me souviens moi...
Y compris avec Marc Madiot qui descendait mal.
Voilà, dès ma première année pro, je peux te dire que j'en ai bavé dans les descentes. Je descendais, mais c'était une catastrophe.
Une catastrophe.
Et certains coureurs redoutent vraiment les descentes. C'est l'une des plus grosses angoisses sur le tour. C'est pas bien la sûr. Peur de la défaillance en montée, c'est la peur de la gamelle en descente.
Le problème d'un gars qui descend mal et qui monte très bien, c'est quand il fait la différence dans la montée, dans un col, et qu'il sait très bien que là, comment il va aborder maintenant la descente, et psychologiquement, comme il sait qu'il descend mal, il est en train de tout perdre dans la descente par rapport à ce qu'il avait pris dans la montée. Mais ça se travaille à l'entraînement. Et puis il faut se dire une chose, c'est que Thibaut, il a pour objectif dans l'avenir de rentrer dans le top 10, voire sur le podium du Tour. Donc
objectif,
il faut qu'il
revoir,
se fasse mal
peut-être.
À la tête, il faut qu'il se fasse mal à la tête et se dire voilà,
Eh bien maintenant, il faut que je fasse des efforts, il faut que je me concentre, il faut enlever cette peur. Et à partir du moment où il est devant dans l'école, il faut qu'il se maîtrise et qu'il arrête de penser à la chute et à ce qui peut se passer dans la descente. C'est ça le problème.
Parce que je l'ai vécu, psychologique.
C'est un blocage, oui.
Il faut aller voir.
Peut-être.
Parce qu'on a beau travailler la descente, si dans sa tête, il sait qu'il va arriver dans le virage, il va se faire peur, il va freiner, forcément.
Il doit regarder sa roue avant plus que d'avoir le regard dans le prochain virage. Quoi.
Oui, bien sûr.
C'est ce que Cyril m'a toujours appris. Regarde jamais ta roue avant, regarde ce qui se passe 100 mètres plus loin là devant.
C'est comme en voiture. Hein. Eh en ouais, voiture, pareil, n'importe pareil. Quel sport de vitesse, il faut anticiper du regard les courbes et les trajectoires.
Bon, en
et
tous les cas,
où tu regardes, tu vas aller. Hein. S'il regarde le bien, il y va.
En tous les cas, on souhaite un bon courage à Thibaut. C'est un garçon qu'on aime beaucoup. Il va se refaire la stream, je pense qu'il peut s'en sortir
parce que l'an dernier.
Il peut viser
l'an
victoire.
L'an dernier, il descendait. C'était pas un grand descendeur. Il était aussi un mieux. Mais il descendait mieux que cette année.
Oui, mais Cyril, est-ce qu'on n'a pas mis de suite et trop tôt la pression
qu'on a mis la pression tout de suite à Thibaut Pinot. On attend depuis tellement longtemps, Thierry.
Arrêtez-vous les médias de mettre la pression aux jeunes coureurs qui arrivent comme ça sur le tour.
T'en as pas parlé de Thibaut Pinot depuis le début du tour. L'année dernière, t'en as pas parlé. C'est que les médias, c'est pas les consultants. Les consultants, c'est les blanches colombes qui ne disent jamais de mal, hein, qui ne mettent jamais la pression.
Christophe, nous, on dit jamais de mal.
Je parle de la pression, c'est son équipe qui lui a mis. Dès le premier jour, on l'a mis comme le patron de l'équipe.
Rappelez-vous l'an dernier, Marc Madiot qui disait oulala, arrêtez de parler de Thibaut Pinot. Il sentait le coup venir, on en a parlé, je m'en souviens des débats qu'on avait.
Il a vécu aussi. Il l'a mis trop vite
comme leader, moi, à mon avis. Et il n'était pas prêt encore, il était un peu tendre. C'est un chien fou. L'an dernier, c'était un chien fou. Rappelez-vous, il fallait lui le brider à chaque fois. Mais peut-être qu'on a cassé la nature de.
Mais Thierry, il faut avoir un coup de massue pour savoir rebondir.
Messieurs, on part à la natation à Vichy. Julien Richard, c'est la fin de la course.
Avec le 100 mètres nage libre dames, dernière épreuve de cet Open de Vichy. Camille Muffa est au coude à coude avec Britta Steffen, l'allemande double championne olympique à Pékin en 2008. C'est pas sa spécialité. Camille Muffa avec Charlotte Bonnet également, les deux copines d'entraînement de Nice, mais Britta Steffen, l'allemande, va remporter cette finale du 100 mètres nage libre. Camille Muffa sera pour l'instant de 3e position. Victoire de Britta Steffen, 2e place pour Charlotte Bonnet, 3e place pour Camille Muffa. C'est pas sa spécialité hein, le 100 mètres nage libre, Camille Muffa, mais elle le nagera quand même à Barcelone dans 3 semaines.
Merci Julien. Tout à l'heure, retour donc à notre débat concernant les Français. Tiens, on va écouter Christian Prudhomme qui était tout à l'heure au micro de Pierre-Yves Leroux, dresser justement le bilan des Français après 9 jours de course. Il est déçu lui aussi, Christian Prudhomme.
C'est la déception de ces 8 premiers jours. Ils ont beaucoup essayé, ils ont très peu réussi. C'est vrai qu'au classement général, ils sont loin et qu'on attendait mieux. Il leur reste 2 semaines. Il y a Jean-Christophe Perrault qui, à mon sens, peut faire quelque chose. Pour les autres, il faut jouer la victoire d'étape, il faut jouer le maillot à poids, il faut se montrer.
Voilà, il faut se montrer pour Pierre Roland. Pierre Roland qui, tu nous le disais il y a quelques jours, Cyril, doit surtout viser le classement de la montagne. Et bien désormais c'est officiel. Il est le leader du maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. Au général, il est loin, hein. il est très loin, il est 26e, hein, je le répète. Mais ce maillot à pois peut devenir, et est devenu d'ailleurs un objectif pour Pierre Roland. Ça a fait devenir Richard Virenque qui est devenu une star avec ce maillot à pois. Donc Pierre Roland peut le devenir aussi à son tour.
Et Jean-René Bernaudot le sait très bien. Il sait très bien que le maillot de meilleur grimpeur, surtout en France, hein, est très, très prisé. Parce qu'il y a une histoire sur ce maillot. Donc il a tout fait aujourd'hui. Hier aussi, il a bougé pour aller marquer des points. Il faut qu'il continue à en marquer parce qu'il y aura des étapes de montagne où il risque de ne pas marquer de points. Et entre autres, déjà en haut du Mont Ventoux, c'est pas certain qu'il puisse accompagner les Froome et compagnie. Et Froome est quand même deuxième à 17 points pour l'instant. 16 points d'avance sur Froome. Bon, Quintana, visiblement, ne le fait pas, puisque aujourd'hui, il y a la possibilité de marquer des points et qu'il ne l'a pas fait. Donc, l'adversaire de Roland, c'est Froome. Vous voyez qu'on a un match au haut niveau.
Voilà, un match entre un maillot jaune et un maillot à pois. On verra ce qu'il en est dans
les jockeys.
Pour avoir un Français dans les 10 premiers, ça va être compliqué. Peut-être Jean-Christophe Perrault, vous y croyez?
Oui.
Thierry, Lucho, Cyril?
Oui, moi j'y crois parce que
dans les 10 premiers j'y crois pas trop, non.
Il fait pas de bruit Jean-Christophe,
il sera bien placé mais pas dans les 10.
Il a combien de retard sur le 10e?
Il a combien de retard sur le 10e? Il est à 3,29 et le 10e est à 2,45. Donc il y a 40 secondes de retard.
Donc il vient dans le top 10.
Il vient dans le top 10. Très bien. Ça, c'est le druide qui nous le dit
limite,
ce soir.
Il devrait essayer. Tiens,
juste un petit mot, Romain Bardet. Par contre, lui, c'est la révélation française. Premier Tour de France.
Mais vous me reconnaîtrez que je vous en ai parlé dès le premier jour du Tour.
Vous êtes un génie, tout le monde le sait. Vous êtes un génie.
Ah oui, mais attends, Cyril, moi aussi.
Oh non. Mais tu es un génie, toi aussi, Lucho.
Je l'ai. Attends.
Oui, Christophe,
j'ai fait la connaissance de Romain Bardet à sa sortie des championnats du monde junior quand il a fait 13e.
Oui, mais ça veut pas dire que tu ne sais pas.
Tu connais.
Non. Mais je savais qu'il avait.
Non,
mais je savais qu'il avait les capacités. Et je suis désolé, mais le premier jour, j'ai dit que Romain Bardet, il fallait voir.
Sortez la bande.
Il avait. Non, mais. Il avait le moteur.
Je veux bien partager.
Non, mais ouais. Bardet, Cyril, garçon d'avenir. Il a été très bon dans la montagne. Il est pas mauvais dans le contre-la-montre. Non, c'est pas vraiment son truc.
Non, il va bien partout.
Il va bien. Ouais.
Oui, non, c'est un.
En plus, c'est un garçon à la tête bien faite, hein, ingénieur.
Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Il a bien fait parce qu'il a fait des études. Non, la tête bien faite quand on est coureur cycliste, c'est la tête de Bernard Hinault. Et il a pas fait d'études.
Le mec est mariole. Il est mariole comme moi. On lui demande de gagner. On lui demande pas de réfléchir à autre chose.
Pendant la course.
Mais il a bien le droit d'avoir fait autre chose dans sa vie et d'avoir fait des études.
Oui, d'accord.
On n'est pas obligé de ne pas avoir fait d'études pour être coureur cycliste quand même.
Non, mais hein, non, dire de quelqu'un qu'il a une tête bien faite parce qu'il a eu la,
pourquoi
il a eu la chance de faire des études.
Parce que ceux qui n'ont pas fait des études n'ont pas une tête bien faite.
Voilà.
Attendez. Bon,
écoutez, moi je quitte l'émission.
Reniveler les choses, les gars. Parce que, attends, moi je sais, avec mon
CAP. Toi, t'aurais dû en faire un peu plus des études.
Avec mon CAP de cuisinier, c'est sûr. Bon, alors je suis.
D'autant plus que tu fais jamais la cuisine.
Messieurs, stop. Nous allons arrêter là ce débat. Ce n'est pas le débat du jour. Le débat du jour.
Ah, c'est pas nous qui l'avons provoqué.
On verra ceux qui ont la tête bien faite pour parier dans quelques instants, puisque nous allons dresser le bilan de ces paris du jour.
Et c'est toujours aussi bon.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France. Christophe Cessieux.
Le Tour de France à Bagnères de Bigorre ce soir. En attendant de prendre la route, de prendre l'avion, les coureurs sont déjà dans l'avion direction la Loire-Atlantique pour la journée de repos demain. Et avant de continuer le Tour de France en Bretagne, puis en Normandie, puis on redescendra tranquillement vers les Alpes pour la troisième semaine. On va parier tout de suite et revenir sur les paris du jour.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Et nous accueillons Monsieur Ramager. Bonsoir Benji.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Salut Benji.
Salut Benji.
Alors, on a trouvé le vainqueur aujourd'hui ou non?
Eh non, on n'a pas trouvé le vainqueur. Là. Chris Froome écrase le Tour de France. Christophe Cessieux écrase également le Tour de France des paris. C'est encore toi le mieux classé aujourd'hui avec Joaquin Rodriguez qui est cinquième.
Faudrait pas exagérer quand même.
Il écrase pas le classement général, enfin ouais, Benji.
Dis, attends, ça sert d'avoir fait des échecs.
J'étais leader il y a deux jours. Il a pas pris non plus.
On a toujours fait en sorte.
Il a quoi? Il a 10 centimes d'euros
d'avance, c'est
tout. 10 centimes d'euros, mais déjà l'année dernière, je t'ai mis 3000 euros dans le nez, mon pauvre.
Et nous, on n'est pas l'équipe Movistar, parce qu'au départ, normalement, Lucho, il avait gagné le tour.
Oui,
on l'a renversé
sur une étape. Alors oui,
on a besoin de rien faire.
Récapitule-nous tout ça, Benji.
Alors, avant la journée de repos de demain, Christophe, tu es en tête du maillot jaune avec 8 euros d'avance sur Monsieur Luc Leblanc.
Ouais, alors tu vois, c'est pas fini, mon pauvre.
Et 11 euros d'avance sur Virginie Fulpin, qui n'a pas dit son dernier mot.
Et moi, elle est là, la petite Fulpin.
Cyril a exactement 18 euros de retard sur Christophe, donc tout est jouable encore.
Trois problèmes.
Le Tour de France n'est pas joué ce soir.
Non, bien évidemment. Trois mauvais élèves en négatif. Il s'agit de Fred Adam à moins 30 euros et de Benji et Bourgui. Ça rime et c'est en queue de peloton à 90 euros.
Ah oui, ça commence à faire cher tout ça.
Et le maillot vert. Le maillot vert, c'est bien sûr Luc Leblanc avec 600 points d'avance sur Christophe Cessieux et Virginie, mais avec seulement 300 points d'avance sur Cyril Guimard qui est encore dans le coup. Le dernier de ce classement, c'est encore Bourgui. Tout comme pour le maillot.
Benji. Il en faut un dernier.
T'es dernier de tous les classements. Bon,
là, cette année, je sais pas pourquoi, mais je dois jeter ma pièce en l'air et donner un vainqueur
c'est
comme
une
ça.
Année, non, mais c'est une année sans,
c'est parce que tu paniques. C'est parce que tu paniques. C'est pour ça que tu sais plus que tu joues.
Non, il faut savoir que pour ce genre de sport, il faut avoir la tête bien faite.
Il faut avoir fait des études.
Exactement.
Regarde, moi je suis pratiquement.
On voit la différence là. Très bien. Oh là là, quelle ordure. Bon, Benji, demain, pas d'étape. Donc, on va pas parier pour l'étape de demain. À part celui qui fera la plus grande grasse matinée. Mais ça, je pense que c'est Lucho qui va gagner.
Ou la plus grosse connerie.
Non, je crois pas.
Ça existe.
Les grasses matinées, là, la prochaine, ça sera à Carpentras, la deuxième journée de repos. Il n'y en est pas encore, hein, les gars.
D'accord. Donc, Benji, on parie sur quoi pour demain?
Alors, le maillot jaune, le problème, c'est que Chris Froome est à 1,08. Le maillot vert, Peter Sagan, à 1,02. Je vous propose plutôt de parier sur le pari le plus intéressant en termes de cote, c'est celui du maillot à poids. Pierre Roland, c'est 1,50. Et derrière, Quintana, 6,50. Et Froome, 8. C'est vraiment le maillot où il y a encore un peu d'enjeu au niveau des cotes. Donc, on va rester là-dessus.
Ah oui. Et il reste quoi comme grosse étape de montagne? Il reste le Ventoux, évidemment, donc course de côte.
L'Alpe d'Huez.
Il reste l'Alpe d'Huez à escalader de reprise.
Ce qui est moins dur que de passer la Madeleine et arriver en haut de l'Alpe d'Huez.
Il y aura juste la descente, donc on peut pas mettre Thibaut Pinot.
Parce que l'Alpe d'Huez n'est pas dur si vous n'avez pas monté la Madeleine avant.
Tu sais, ils ont fait Galibier une année, Galibier et l'Alpe d'Huez.
Le truc, si tu veux, c'est que Froome, il a pas trop de retard sur Pierre Roland. Et quand tu sais que tu as l'Alpe d'Huez arrivé au sommet,
juste le Ventoux.
Et le Ventoux.
Ouais.
Et le contre-la-montre.
Non, mais contre la montre, il n'y a pas de point.
Il y a un grimpeur. Non, il n'y a pas de grimpeur.
Contre la montre, il n'y a pas de grimpeur.
Peu importe.
Tu as le Ventoux et tu as. C'est ça, parce que Froome, il risquerait peut-être de récupérer des points parce que.
Et ça compte double.
Et ça compte double. Donc.
On va rappeler le classement du meilleur grimpeur. Pour l'instant, c'est Pierre Roland qui est en tête avec 49 points. Froome est deuxième avec 33 points. Richie Porte, troisième avec 28. Quintana, plus exactement, quatrième avec 26 points. Et puis Nieve est cinquième avec 21 points. Donc voilà la situation. Alors, quel sera le porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur sur les Champs-Élysées? Je vais demander son avis à nos grimpeurs, à savoir Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui vont ouvrir le bal. Thierry, on va commencer avec toi.
Alors, comme je me trompe à chaque fois, et que j'amène la Schkumoun à celui que je parie, je vais mettre Froome sur tous les tableaux, jaune, en grimpeur.
D'accord, Chris Froome.
Sagan.
Oui, vert, c'est déjà quasiment fait.
Bah oui, mais bon.
Oui, d'ailleurs, c'est du vert Sagan. C'est une nouvelle couleur.
Ok, donc Chris Froome pour Thierry. Lucho, tu vas bien nous trouver un Espagnol sorti de...
Non, mais c'est vrai quand même qu'il y a pas mal d'arrivées quand même, hein.
Oui.
Il y a l'Alpe d'Huez.
Il découle la carte du tour.
Le Ventoux. Non.
Quintana peut faire de beaux trucs, on sait jamais.
Vraiment, mais toi.
Allez, vas-y, trouve.
Je vais te chambrer. T'as le Grand Bornand aussi, c'est pas mal, hein, quand même. Hein.
Bon, Lucho.
Et Annecy. Thierry, attends, je réfléchis.
Cyril, vas-y.
Ah oui, mais là, je suis perturbé.
Non, mais je vais garder Pierre Roland.
Je suis troublé parce que je pensais que contre la montre il y avait un grimpeur. Donc
je vais garder Pierre Roland, Christophe. Je vais garder Pierre Roland.
Si contre la montre il y a le deuxième. Non, le deuxième contre la montre, il y a deux grimpeurs de deuxième catégorie.
Ok. Voilà. Donc.
Ah bon. Oui.
C'est ce qu'on disait.
Donc des points pour Chris Froome en gros.
Je vois pas qui va l'inquiéter sur ce type.
Donc Chris Froome, point rouge sur les champs.
Bon là, le problème c'est que quand on parie, il y a toujours l'affect qui parle un peu.
Alors l'affect, vas-y.
Bon allez, je vais dire Pierre Roland pour les poids.
Et ouais.
Je vais dire Froome pour le jaune.
Ouais voilà.
Et puis avec Peter, ça gagne.
Ok, donc Roland, Froome, Sagan, tout le monde est d'accord. Tout le monde
Non,
t'as dit Froome
pour les points.
J'ai mis Froome sur grimpeur.
Ouais, bah moi aussi, tiens, allez, je vais faire comme toi, Thierry.
Et bien sûr,
comme ça, on court ensemble.
Voilà.
Tiens, les mecs, je travaille pour vous parce que je l'emmène dans le fossé.
Le classement du meilleur jeune, le maillot blanc aussi, c'est intéressant parce que Quintana est en tête, mais il n'a qu'une minute 23 d'avance sur Kwiatkowski.
Romain Bardet,
3ème à 5,07. Quintana, Thibaut Pinot est 5ème encore.
Attention, parce qu'au chrono, Kwiatkowski là sur Quintana, il risque peut-être de lui mettre un petit peu de temps quand même.
Kwiatkowski qui était là dans le coup aujourd'hui. Hein.
Attends, mais il était là quand même.
Oui.
Bon alors, Quintana?
Non.
Quintana? Kwiatkowski pour toi?
Moi j'avais dit Inzaghi, j'avais dit moi au départ.
Non, Quintana, t'avais dit non?
Pour le maillot des jeunes.
Ouais.
Ah non, c'est non. La montagne. Oui, bah, je vais me replanter quand même sur Quintana parce que je vois pas qui peut l'en empêcher. Ouais. Ouais. Enfin, faut se méfier. Il court tellement mal à la Movistar, il court pour perdre. Donc bon, allez, on va peut-être que le Colombien, il va être lui qui a pas fait beaucoup d'études, qui a pas la tête pleine. Peut-être qu'il va pas faire de conneries.
On va demander à quelqu'un qui a la tête bien faite.
Bien faite, le gamin. Il va attaquer, il va gagner l'étape.
Il y en a une qui a la tête bien faite et bien pleine. C'est Virginie Fulpin. Elle va nous donner son pronostic. Salut Virginie.
Comment elle est gentille.
Monsieur veut se placer.
Ouais, j'ai l'impression. Voilà.
Auprès de la présentatrice vedette.
N'est-ce pas? Alors moi, je vais jouer Chris Froome jaune et à pois.
Ah, enfin.
Sagan en vert et Kwiatkowski.
En blanc.
Ah, voilà. Tu me rejoins, ma Virginie adorée. Tu vois, tu rejoins Lucho.
Ah non. Mais non. Mais non. Grimpeur à la
demi-fond.
Le maillot blanc, je te dis.
Sur le maillot blanc, oui.
Écoute, Thierry, comme on parle.
Ah bah, tu sais pas ce que tu dis. Hein.
Ah ben bah, non, mais j'ai toujours.
Tu dis,
je sais pas parce qu'on va rester ensemble à 20h05. Alors
voilà, on va s'engueuler.
Comme ça, on s'engueule toute la journée.
Vous étiez fâché avant. Non. Surtout qu'il y a plein de gens qui vous attendent au 32-16. Donc, on va essayer de faire une bonne figure.
Au tournant.
Et au tournant, d'ailleurs.
Non, le show, il descend pas bien. Alors, ouais. Je peux le gagner là-dessus.
Ouais. Ok, bon, Virginie, je vais te les laisser parce qu'ils sont super turbulents ce soir. Et puis moi, j'ai un peu de route.
Et puis moi, je reste le jour et pendant qu'ils vont faire la route.
C'est pas normal. Virginie, tu peux me lâcher 10 minutes avant, s'il te plaît?
Absolument pas.
Virginie, tu le laisses partir maintenant?
Non, absolument.
Et on fait
pas.
Ça à deux.
Ils sont turbulents ce soir, c'est n'importe quoi. Merci, donc, messieurs, dames.
Merci, Christophe. Demain, journée de repos. Donc, Bagnères de Bigorre, Saint-Nazaire pour vous en voiture. Et on vous attend au 32-16 à 20h05 avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Et à 20h30, notre invité foot sera Jean-Christophe Baybeck, demi-finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec les Bleuets. À tout de suite.